Forum Job d'été avec Radioactive Blois et Studio Zef. Bonjour et bienvenue, nous sommes en direct sur Studio Zef pour le forum Job d'été à la Halle aux Grains ce mercredi 11 mars de 14h à 16h. Mais le forum a déjà commencé depuis 13h30 et terminera à 18h. Plusieurs structures différentes, des boîtes d'intérim, du service à la personne, de l'animation, de l'hôtellerie-restauration, du tourisme, de l'agriculture. Tout au long du direct, nous parlerons dans un premier temps de la valorisation des compétences en faisant un focus sur le CV et le badge numérique, sur le deuxième plateau de la présentation de l'événement d'aujourd'hui. Ensuite, nous évoquerons l'emploi saisonnier et pour finir, une interview de jeunes et de leur parcours vers l'emploi. Sur ce premier plateau, nous retrouvons donc Thomas Prigent, directeur de la mission locale de Blois, Rachid Belharbi du service jeunesse de la ville de Blois, en compagnie de Kevin et Laura Hiller de Hardworks. Qui dit valorisation de compétences dit CV. Alors déjà, je vais me pencher vers vous, Thomas Prigent. Dans votre structure, vous préparez également les jeunes avec des simulations d'entretien et vous faites des ateliers sur le CV. Comment conseillez-vous du coup la composition d'un CV pour divers domaines? Est-ce que vous vous rapprochez des entreprises en amont? Quelle est votre démarche?
Bonjour. Eh bien oui, effectivement, à la mission locale, on accompagne les jeunes sur plein de choses, mais notamment sur l'élaboration de leur CV. L'idée, c'est qu'il n'y a pas une règle d'or pour le CV. On peut trouver autant de versions de CV que de recruteurs, presque. Le plus important, c'est que la personne, le jeune, soit à l'aise avec son CV. Non seulement que le CV soit structuré, qu'il soit clair, mais surtout que la personne, le candidat, soit capable d'en parler sans le lire, finalement. Qu'il soit capable de l'illustrer en le commentant, en s'appuyant dessus, mais sans en être dépendant, quelque part. Après, il y a un certain nombre de règles, je ne vais pas détailler là parce que ça serait un petit peu long, mais bien sûr, on conseille, on a des méthodologies, on a des trames, il y a des choses à faire, des choses à ne pas faire. Et donc, encore une fois, l'idée, c'est que chacun reparte avec un CV qui lui ressemble, dont il soit content, dont il soit fier et qu'il ait envie de le défendre.
D'accord. Et vous, en tant qu'employeur, du coup, également, qu'est-ce qui fait que vous gardez un CV ou non ?
Ah, c'est une très bonne question. On en reçoit énormément déjà. Je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là. C'est vrai que quand on publie une offre à la mission locale, on reçoit facilement 50, 60, 80 CV. Donc ce qui fait qu'on ne va pas les retenir, il faut peut-être commencer par là, c'est des choses très simples comme des fautes d'orthographe, comme des incohérences, un manque de lisibilité, quand il manque des dates, quand on ne comprend pas comment le parcours est construit, quand quelque chose n'est pas clair, quand il y a un trou, plusieurs années pour lesquelles on n'a pas d'informations. Voilà, toutes ces petites choses-là, il faut y faire attention. Ensuite, ce qui va permettre à un CV de sortir du lot, c'est, outre le fait qu'il soit clair et structuré, le petit plus peut-être, qui à compétence, un petit peu à expérience égale, va différencier. Donc ça peut être aller chercher des choses qui sont de l'ordre de l'expérience ou des compétences extra-professionnelles. Des exemples classiques, c'est quelqu'un qui a fait du sport en club pendant un certain nombre d'années. Bon, c'est quelqu'un dont on sait qu'il a une capacité à persévérer, à s'accrocher, à affronter la difficulté, l'adversité aussi, à travailler en équipe. Voilà, quelqu'un qui a fait de la musique, par exemple, de manière régulière, on sait qu'il a une capacité à se concentrer sur l'effort, à reprendre une tâche jusqu'à ce qu'elle soit accomplie. Quelqu'un qui, dans nos métiers à nous spécifiquement, a eu un engagement bénévole dans le champ social, dans le champ environnemental. C'est quelqu'un avec qui on a des chances de partager des principes, des valeurs de travail qui vont être importantes. Et tout ça, ça vient en plus du diplôme et de l'expérience et ça va parfois faire la différence.
Et du coup, je vais me pencher vers vous, Madame Miller. Du coup, vous faites partie de l'agence AdWords. Qu'est-ce qui fait que vous gardez un CV ou non ?
Eh bien, idem que mon collègue pour les CV, pareil. Il faut que les CV soient bien construits. Sans faute d'orthographe, c'est important. Toute génération confondue, finalement. La clarté, la lisibilité et la mise en avant des compétences, c'est très important aussi. Sur des profils jeunes, l'expérience Il y en a où il y en a un petit peu moins. En revanche, effectivement, les compétences sont importantes. Nous, quand on vend nos CV auprès de nos clients, on demande parfois à nos clients de ne pas seulement s'arrêter à la lecture de CV, d'aller un petit peu plus loin. Et nous, les compétences, on peut effectivement ajouter de la plus-value sur le CV et vendre les candidatures aux clients.
Et du coup, on parle beaucoup de ce qui est conseillé sur un CV, mais du coup, qu'est-ce qui ne l'est pas ?
Peut-être, ce qui ne l'est pas, c'est un peu la symétrie de ce qu'il est. Donc, ce qu'il faut éviter, ce qui n'est pas conseillé de mon point de vue, hein, encore une fois, il y a autant de règles que de recruteurs, peut-être, c'est par exemple des CV trop denses. Parfois, ça concerne peut-être moins les jeunes, mais chez des gens qui ont beaucoup d'expérience, certains ont tendance à tout mettre. À un moment donné, il faut faire un tri, parce qu'un CV en caractère 10, où il y a 1000 ou 2000 caractères sur la page, ça va être extrêmement, presque plus rébarbatif qu'un CV où il y a encore peu d'expérience, mais où c'est bien organisé et où c'est séduisant parce que ça donne envie de le lire et de mieux connaître la personne.
Un CV sur une page.
Ok.
Parfois, on a souvent des candidats qui viennent nous voir avec des CV sur 2 ou 3 pages. C'est lourd à la lecture, que ce soit pour nous ou même pour les employeurs futurs. Ils n'ont pas le temps. On n'a pas le temps de passer trop de temps à lire le CV. Il faut que ça percute tout de suite. Il faut qu'on arrive en quelques secondes à la lecture du CV à se dire cette personne, elle a telle compétence, elle pourra faire ça et elle pourra faire ci. Donc du coup, sur une page, c'est le premier conseil à donner.
Et du coup, qu'est-ce qu'on doit valoriser en premier ? Les formations, les expériences professionnelles, les compétences acquises ?
Ça dépend du poste. Ça dépend du poste qualifié ou non. Sur un poste non qualifié, nous, on est une agence généraliste. Donc, on fait du tertiaire, de la logistique, de l'industrie, du bâtiment. Sur un poste non qualifié, j'ai envie de vous dire que l'expérience va compter avant tout. Sur un poste plus qualifié, selon les demandes des clients... Il va falloir réussir à jouer entre l'expérience et la formation, à mettre en avant les mots-clés qui nous donnent envie d'aller chercher le candidat, qui nous donnent envie d'aller creuser avec lui les informations. Ça dépend du profil.
Et vous, pour votre part, Thomas Prigent ?
Alors, sur ce qui va retenir notre attention, ça va être, comme je l'ai dit, des choses qui vont se démarquer du lot. Donc il ne faut pas hésiter. Je vais prendre des exemples concrets. Par exemple, je pense à un jeune là, qu'on a accompagné. Sur son CV, il avait mis, par exemple, Shazam Humain en qualité. Donc Shazam, c'est cette application qui permet à un smartphone de détecter, de reconnaître l'auteur et le titre d'un morceau simplement en lui faisant écouter la musique. Ça, c'est un truc intéressant, Shazam Humain. Ça veut dire quoi ? Ce jeune-là, il a une culture musicale importante. C'est un truc qui le fait vibrer, ça le démarque de quelqu'un d'autre. C'est pas une compétence en tant que telle, mais ça veut dire qu'en même temps, il a un côté créatif, en même temps, il a un côté curieux, il connaît plein de musique, et en même temps, il est capable de montrer un petit peu de ce qu'il est personnellement. C'est pas du tout trop, c'est pas impudique, il fait pas étalement de sa vie privée, c'est pas ça. Simplement, il met une petite touche, il dit voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est la musique, et je suis passionné de ça, et je suis du coup... Je pense que je suis capable de reconnaître n'importe quelle musique comme ça du premier coup. C'est un exemple très, très précis, mais voilà un petit truc où on lit ça, on se dit ah ben ça m'intéresse, ça, il faut que je le rencontre, cette personne. J'ai envie d'en savoir plus.
Et du coup, on va rester sur les compétences. Comment bien les valoriser dans un CV ? Comment les faire bien ressortir ?
Il faut être synthétique.
Oui,
dirais.
Tout à fait. Ouais.
Il faut utiliser, comme disait ma voisine, des mots-clés. Et en fonction de l'employeur auquel on s'adresse, les mots-clés ne sont pas forcément les mêmes, je pense. Hein,
oui, tout à fait.
Si on est dans la logistique, on va avoir certains mots-clés. Si on est comme nous dans l'action sociale éducative, on va avoir d'autres mots-clés. Donc il faut se mettre dans la tête de l'employeur et se dire, quel est, pour reprendre mon histoire de musique, quelle est la musique qu'il a envie d'entendre ? Quels sont les mots-clés qui vont le faire tilter et vont faire qu'il va avoir envie de me rencontrer ? Et pour ça, il faut tout simplement se renseigner. Donc, enquêter auprès de professionnels qui sont du même milieu et dire, vous, c'est quoi ? Qu'est-ce qui vous retient votre attention sur un CV ? Quels sont les mots que vous attendez de la part d'un candidat ?
Oui. Et donc, du coup, dernière petite question sur ce focus du CV. D'après vous, comment on peut valoriser, du coup, ses compétences, autrement que dans un CV ?
Ça, c'est une bonne question. pas facile d'y répondre, surtout sur des profils jeunes qui n'ont pas forcément d'expérience. Je pense que les jeunes aujourd'hui se rendent compte à beaucoup de difficultés en termes de mobilité. S'ils ne sont pas véhiculés ou autres en termes de recherche d'emploi, c'est plus difficile, je pense. Mieux valoriser ses compétences, tout dépend de l'entretien. Quand ils viennent s'inscrire chez nous, il faut réussir à se vendre. Et c'est là où c'est pas toujours évident, quand on n'a pas d'expérience, ou même quand on en a d'ailleurs, selon le tempérament de chacun. Réussir à communiquer avec les autres, c'est important. Bien se connaître, c'est important aussi. Et j'ai envie de vous dire, c'est plus délicat quand on a des profils qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Pour se vendre, c'est très compliqué. Je sais pas quoi faire, je sais pas ce que je veux faire, je sais pas trop, je connais pas, effectivement, je rejoins mon collègue. Bien connaître l'environnement dans lequel on veut aller, s'être renseigné au préalable, c'est un atout déjà, et c'est une des clés importantes pour après pouvoir bien se vendre en entretien.
Et puis ce qu'on peut peut-être dire pour compléter, c'est que, encore une fois, tous autant qu'on est, en tant que jeune, enfin moi je le suis un peu moins maintenant, mais on a des activités parfois sportives, parfois culturelles, parfois bénévoles. On a des univers chacun, et ces univers, ils peuvent attester de nos compétences. On a tous fait amender un ou plusieurs stages. Si ça se passe bien, il ne faut pas hésiter à demander en fin de stage à son tuteur, à son maître de stage, un petit courrier, quelques lignes en disant « j'ai reçu... Monsieur Intel ou Mademoiselle Intel, il a exercé telle tâche, j'ai pu observer qu'il était ponctuel, régulier, curieux, il nous a aidés sur tel ou tel dossier. » Voilà. Ça, c'est une manière d'enrichir, de consolider le CV. On peut tout à fait, je pense, joindre ça au CV dans une candidature. Et ça aussi, ça va faire la différence. Aujourd'hui, quand on reçoit un CV de jeunes qui cherchent un premier emploi ou un stage, on a peu souvent une attestation, voire plusieurs avec. Et ça peut être vrai aussi d'une activité sportive. Un jeune qui a pratiqué un sport et qui peut-être a encadré un petit peu des plus jeunes, des enfants, peut demander à son président de club ou à son entraîneur d'attester des choses autour de ça qui vont montrer qu'il a déjà une expérience, il a déjà des qualités, même si ce n'est pas dans un cadre strictement salarié.
Et bah, cette question nous fait une belle transition puisque nous sommes également en compagnie de Rachid Belharbi du service jeunesse de la ville de Blois, en compagnie également de Kevin qui sont là pour nous parler du badge numérique. Alors déjà, première question, c'est quoi le badge numérique exactement ?
Vas-y Kevin. Ouais.
Toi, alors le badge numérique, ça va être une image, et dans cette image, il va y avoir des métadonnées qui seront encapsulées dedans, et les données qu'on va avoir dedans, ça va être qui a délivré ce badge, quand est-ce qu'il a été délivré, à quoi sert ce badge et quels sont les critères qui permettent d'avoir ce badge. Et après, en option, on peut rajouter des recommandations. Donc des gens peuvent recommander la personne ou le badge qui a été délivré, et on peut aussi y rajouter des preuves pour renforcer les badges.
Pour compléter Kevin, c'est vrai, sur le badge, c'est un CV numérique, c'est un complément. Alors, il ne vient pas remplacer ni le badge, mais au contraire, il vient donner une plus-value. Tout à l'heure, on parlait d'expérience. Comment on pouvait valoriser les expériences non formelles, non certifiantes ? Exemple d'expériences non formelles, non certifiantes, les engagements bénévoles. Il y a des jeunes, quand on demande à un jeune de 17-18 ans de mettre sur papier des expériences, ce n'est pas facile, parce qu'il est normal, il n'a pas assez d'expérience. Par contre, quand on creuse un peu à côté, il a eu des expériences d'engagement, que ce soit, là, par exemple, sur le forum, on a des jeunes qui sont engagés avec nous dans l'accueil, dans la manutention, etc., dans toute l'organisation en amont et pendant le festival. Donc, ils ont acquis des expériences, ils ont acquis des savoir-faire, excusez-moi, des savoir-être. Et comment on les met en valeur dans un CV ? Eh bien, c'est parfois difficile. Le badge numérique le permet. Et donc, un jeune peut arriver avec un CV classique et un badge numérique en disant, voilà, j'ai peut-être une ou deux expériences professionnelles, mais à côté, j'ai acquis des expériences qui ont été endossées, c'est-à-dire qui ont été validées, qui ont été, voilà, disant, ben, je sais, par exemple, accueillir, je sais sourire. On a pu créer, là, par exemple, 5 badges avec des employeurs sur mesure. Hein, sur, par exemple, il y a un badge qui est « Je sais cuisiner ». On a travaillé avec des restaurateurs, hein, ici. Eh ben, je sais cuisiner, c'est des ateliers de cuisine éducatifs, hein, qui ont été mis en place auprès des jeunes. Et durant ces ateliers, les jeunes ont acquis des compétences, exemple, savoir ranger une table, respecter des règles d'hygiène, être capable d'accueillir, etc. Toutes ces expériences-là, ben, on les a mis dans un badge. Et résultat, quand le jeune arrive, eh ben, pour un travail saisonnier, c'est important parce qu'il dit, ben, voilà, j'ai pas qu'une expérience, à côté, j'ai appris des choses. dans des expériences, exemple atelier de cuisine, et là je peux, avec des preuves, comme disait tout à l'heure, parce qu'on peut pas, voilà, le badge ne s'ouvre pas comme ça, mais à la fois ce qui est positif dans le badge, c'est qu'à la fois on est dans l'ère du temps, on est dans l'ère du numérique, c'est quelque chose qui est assez souple, qui peut être rapidement diffusé, le badge appartient à la personne, elle peut le transmettre, elle peut le rendre public ou privé, donc ce qui permet de créer, ça c'est très important, un écosystème de confiance avec les employeurs, avec aussi tout l'environnement qui entoure le bénéficiaire du badge.
D'accord, mais du coup, qui décide de la validation des compétences ?
Alors, bonne question, alors, comment ça se décide ? C'est-à-dire qu'on construit le badge avec la personne, c'est-à-dire qu'on repère les jeunes, on voit s'il y a des expériences entre guillemets badgeables dans leurs expériences. On a pu rencontrer quelques-uns sur le forum, là on a rencontré des jeunes qui avaient des expériences par exemple sur BD Boom en tant que bénévole, etc. Donc on fait un étayage, on décrypte avec la personne les expériences, et à partir de là on construit, il y a une plateforme qui s'appelle Open Badge Factory, on construit le badge avec la personne, on crée le badge, et on dit, on évalue avec la personne, on dit au regard de tes expériences, ça vaut le coup de faire des badges, parce que vraiment tu as des compétences qui n'apparaissent pas dans ton CV, et ça, faut vraiment que tu peux créer un badge, et ça peut être un complément. Et des fois on peut dire à la personne, le badge n'est pas approprié parce que tu n'as pas suffisamment d'expériences qui peuvent être badgeables.
Et pourquoi vous avez décidé de mettre ça en place ? Depuis ?
Très simplement, nous, pas de souci. Pourquoi on a décidé de le mettre en place ? Non, mais c'est les joies du direct.
C'est ça.
Il n'y a pas de souci. C'est simple, nous, on a constaté, au service jeunesse, on accueille un public qui est entre 11 et 25 ans. Et quand les jeunes fréquentent nos structures, alors que ce soit nos structures ou la mission locale ou le bureau d'information jeunesse ou d'autres structures, ils apprennent des choses. Ils arrivent avec un bagage, avec un savoir. Et ça évolue, donc ils apprennent des choses. Et nous, on s'est dit, comment on fait pour valoriser tout ce qu'ils ont appris ? Je vous prends un exemple. Là, on va organiser au mois d'avril un festival qui s'appelle Rêve Urbain. C'est un festival dédié aux pratiques urbaines et aux arts urbains. On a des jeunes qui sont impliqués dans l'organisation de A à Z. Et souvent, ces jeunes ont dit, ils ont appris des choses, mais comment on peut les valoriser ? Ils ont appris des choses en termes d'accueil, ils ont appris des choses en termes de programmation, de logistique, etc. Le badge, voilà, le badge permet ça. Le badge permet, avec des preuves, permet de valoriser, de valider ces expériences-là.
Oui, Thomas Prigent.
Moi, ce que je trouve très intéressant dans cette démarche, c'est qu'en France, on a un souci, c'est qu'on recrute encore aujourd'hui vraiment de manière extrêmement massive sur le diplôme.
Tout à fait.
Et en faisant ça, on fait une erreur monumentale. Non pas que les gens qui ont un diplôme ne méritent pas l'avoir et sont incompétents. Par contre, on a plein de personnes qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas obtenu de diplôme dans le cadre de leur cursus scolaire, et qui pour autant sont des personnes formidables, pleines de potentiel, pleines de richesses, pleines de capacités. Et l'open badge est une des manières de formaliser cette potentialité, cette richesse, et de la faire comprendre et admettre par les employeurs. Parce que quand justement on fait un tri de CV et qu'on ne le fait que sur le diplôme, on va garder, 10%, 20% des CV qui ont le diplôme qu'on cherche, mais ce n'est pas du tout une garantie qu'on aura fait le meilleur choix au service de sa structure ou de son entreprise. On va peut-être passer à côté de la vraie perle rare que l'on cherche, qui, encore une fois, pour X raison, n'aura pas les diplômes, mais par contre aura peut-être autant, voire parfois plus de qualité et de compétences que le titulaire du diplôme lui-même.
Tout à fait. Et puis pour compléter Thomas, ça permet aux employeurs, et même à nous, de changer un autre regard sur la compétence. Et ça permet surtout une chose qui est importante, c'est de se dire, au fond, tout le monde est gagnant au fond dans cette affaire. C'est-à-dire qu'en même temps, parce qu'on a constaté, nous, que les employeurs veulent mettre l'accent sur les savoir-être, être ponctuel, par exemple, être souriant, être capable d'être... On a fait même des badges conciliateurs, médiateurs, des gens qui sont capables de rester calmes face à des situations difficiles, tendues. Sur le savoir-être, sur les qualités relationnelles, le badge permet de le ressortir, et c'est souvent des employeurs en majorité qui recherchent pour un emploi saisonnier des qualités, des candidats qui sont porteurs de ces qualités-là. Mais surtout, nous, notre objectif, parce que nous, on fait partie d'un ensemble qui s'appelle Badgeon, le Centre Val-de-Loire. Kevin fait partie de la Ligue de l'enseignement qui pilote un peu, parce que nous, on fait partie au niveau de la région de plusieurs, d'un groupe de partenaires qui expérimentent le numérique et en particulier les badges. Mais nous, notre objectif sur Blois, c'est qu'on arrive aussi à badger. On crée un territoire apprenant, c'est bien le terme de badge. Vous aussi, quand vous menez une expérience radio ici de journaliste, ça pourrait faire l'objet d'un badge parce que vous avez appris des choses. Et pour terminer, je vous prends un exemple qui était très, très révélateur. On a une jeune qui a participé avec nous à plusieurs fois au rendez-vous de l'histoire, qui a fait des interviews
d'historien, etc. Et qui a, avec le badge et son CV, ça lui a permis de rentrer à l'école de journalisme parce qu'elle est arrivée avec son CV et on lui a fait un badge. Et le badge, on a attesté qu'elle avait bien participé aux interviews avec, avec nous à La Fabrique, hein, qui est un lieu de l'espace jeunesse pendant les rendez-vous d'histoire, et ça a aidé. C'est-à-dire, ah bah oui, vous avez interviewé quand même des historiens, vous avez fait des interviews, vous savez comment ça fonctionne, etc. Ça a aidé, ça a suscité la curiosité, et je pense que ça fait basculer, ça a donné aussi un peu plus de poids, quoi.
Là, du coup, ça rejoint un peu une question auquel je pensais. On peut trouver, du coup, un emploi avec le badge numérique.
Alors... Je dirais, c'est pas retrouver un emploi, ça peut aider. Ça peut aider, c'est-à-dire que ça peut aider pas que l'emploi, parce que le badge n'est pas uniquement sur l'emploi, ça peut aider pour trouver un stage, mais c'est aussi, ça peut permettre aussi pour rentrer dans des écoles, voilà, ça peut faciliter. Je veux pas dire que le badge, c'est un sésame tout de suite pour un emploi, mais ça peut amener à l'employeur de voir le candidat autrement, et ça permet aux bénéficiaires de badge de se présenter autrement et d'avoir plus de confiance. C'est-à-dire d'arriver avec des compétences, des choses. Donc ça peut aider, ça peut contribuer, ça peut faciliter à l'accès à un emploi, à un logement, et voilà.
Faut vraiment le voir comme un outil complémentaire au diplôme ou au CV, où ça va dire plus que ce que le CV peut dire en fait.
D'accord. Et Madame Hilaire, du coup, je me tourne vers vous. Est-ce que déjà vous en aviez entendu parler du badge
du tout?
Et du coup, là, avec toutes ces explications, qu'est-ce que vous en pensez?
Au contraire, je trouve que c'est un très bon outil qui permet effectivement de mettre en avant et de faire ressortir les savoir-être. Effectivement, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, beaucoup de nos clients nous demandent des profils aujourd'hui dont les savoir-être vont primer parfois sur certains postes par rapport aux compétences à proprement dites. Les savoir-être, la ponctualité, la façon de se présenter, la façon de communiquer, le sérieux, la rigueur. Et effectivement, ça, on ne peut pas le voir à travers la lecture d'un CV. Donc au contraire, d'avoir un outil comme ça, nous, ça peut nous aider en tant que recruteurs à pouvoir essayer de guider les profils, à pouvoir guider aussi nos clients en disant tel profil a pu réaliser ça à travers ça. Au contraire, et donner peut-être plus de chances supplémentaires.
Et du coup, Monsieur Prigent, est-ce que vous avez vu des jeunes avec l'utilisation du badge numérique ou pas?
Pour l'instant, on en voit encore très peu, honnêtement, sur les CV des jeunes que l'on accompagne. La mission locale, nous, on participe en tant que partenaire à la démarche qui est portée par la ville. Je pense qu'il faut qu'on s'en saisisse plus et mieux dans les mois qui viennent. Moi, je suis encore une fois convaincu de l'avenir de cette solution. Parce que c'est vrai que, comme le disait Madame Hilaire, la question des savoir-être aujourd'hui, elle est déterminante. On est dans une période très bizarre où on a d'un côté beaucoup de gens qui cherchent du travail et d'un autre beaucoup d'employeurs qui cherchent des gens pour travailler. Et qu'est-ce qui fait que ces gens ne se rencontrent pas ou pas assez? Bien sûr, tous les jours, on s'interroge là-dessus. Mais je pense que les open badges, ça peut être une partie de la réponse pour faire qu'ils se rencontrent plus, mieux et qu'ils travaillent ensemble.
Et j'ai une dernière petite question. On entend badgeons le 4-1, open badge, le badge numérique. Quel est le vrai nom?
Alors, on va vous expliquer. Donc le badgeon le 4-1, c'est notre expérimentation au niveau du Loir-et-Cher, comme j'ai pu vous le dire. Notre expérimentation s'inscrit dans un collectif qui s'appelle Badgeon le Centre Val-de-Loire, dans lequel il y a plusieurs opérateurs et plusieurs structures régionales qui fonctionnent. Donc nous, le badgeon 40, le 4-1, ça regroupe bien sûr la mission locale, le bureau d'information jeunesse 41, l'espace Mirabeau et le service jeunesse, bien évidemment. Donc on a fait une première expérimentation depuis un an sur le forum. On a axé l'expérimentation sur le badge, sur l'emploi, et on va passer, on va dire, à la deuxième étape. Après le badge, on va essayer d'élargir, généraliser le badge à d'autres domaines et plus à un maximum de monter en charge des badges auprès des jeunes et des publics. Donc on va réfléchir comment on peut, sur la deuxième étape, pour, comme je vous l'ai dit au début, c'est notre objectif, à moyen et à long terme, faire de Blois, avoir une cartographie des badges, un territoire apprenant, où par exemple, là on m'avait interpellé la dernière fois, il y a un festival mixtaire où on recherche des bénévoles, on m'a dit oui, c'est très bien, quand on a besoin de rechercher par exemple des jeunes qui ont telle compétence, on aura une cartographie, on pourra cliquer et rentrer en lien avec la personne qui a le badge. Si on recherche par exemple quelqu'un qui veut faire des compétences en logistique, et on peut l'interpeller par le biais du badge. Donc voilà, donc notre objectif est de pouvoir vraiment développer davantage le badge, donc bien sûr avec nos partenaires, donc la mission locale, le bureau d'information jeunesse, l'espace Mirabeau, le service jeunesse, toujours en aide avec le Badgeon Centre Val-de-Loire, la Ligue de l'enseignement qui nous soutient et la Grange Numérique qui nous soutient toujours, qui nous accompagne sur ce projet. Et j'oublie un opérateur important, c'est le Gypressia aussi qui est avec nous. Donc voilà, et en plus on est soutenu parce que c'est un dispositif pour terminer qu'il y a des fonds, il y a des fonds régionaux et européens. Donc voilà, donc à la fois l'Europe, parce que c'est aussi l'Open Badge, c'est un outil mondial, l'Europe soutient ce type de dispositif parce qu'on est européen, quel que soit l'endroit où on habite, le badge peut être reconnu. Voilà, peut être reconnu, et ça c'est important, quoi.
Et l'idée de Badgeon Centre Val-de-Loire, c'était qu'au tout début, quand on parlait des Open Badge, la première question qui revenait souvent, c'était alors les badges, c'est génial, mais auprès de qui je peux l'utiliser, en fait? Et du coup, Badgeon Centre Val-de-Loire s'est monté autour d'un collectif qui est ouvert, donc n'importe quel organisme qui est intéressé par les badges peut le rejoindre. Et l'objectif, c'est petit à petit d'acculturer la région Centre Val-de-Loire à cette question des Open Badges, en fait.
Super. Eh bien, je vous remercie à tous pour
merci.
Vos petites
merci
précisions.
Merci à vous.
Merci à toi.
Et nous sommes toujours en direct du forum Job d'été à la Lorraine à Blois. On se retrouve tout de suite après la pause musicale pour la présentation de l'événement.